Retour sur UVA. C'est ce vendredi 6 janvier 2012 qu'on en débat au centre d'animation Mercœur avec le réalisateur Mehdi Lalaoui et Rock Aucas du mouvement des jeunes Kanak en France. Vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 et gardez l'écoute.
Mehdi est avec nous ce soir, donc il sera là pour la rencontre après le film. Je ne souhaitais pas forcément présenter le film, donc c'est sûr, on en parlera donc avec lui après la projection. Donc, comme le titre l'indique, c'est sur les événements d'UVA qui sont produits, donc maintenant il y a quand même pas mal d'années, dans les années 80, des événements assez dramatiques. Et là ici, c'est un documentaire qui est un peu, je dirais, le pendant de... qui a été fait bien avant le film de Mathieu Kassovitz, mais qui est un documentaire et qui est un documentaire qui a été fait au travers des témoignages des Kanaks. C'est vraiment leur témoignage de comment ça s'est passé et de leur ressenti déjà pas mal d'années après.
Mehdi Lalaoui.
C'est un film qui traite de notre histoire, même si... géographiquement, ça se passe à plus de 20 000 km d'ici. Mais tout ce qui se passe et tout ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie l'a été et l'est encore au nom du peuple français. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'il y a une lutte pour la liberté, une lutte pour l'indépendance, et que justement le peuple français a une responsabilité de vigilance, d'accompagnement du peuple kanak dans son combat pour l'émancipation. Et moi, je suis content que ce film soit montré en France. Voilà. Vous avez peut-être vu L'ordre et la morale de Mathieu Kassovitz, qui est une fiction. Et voilà. Et là, ce sont les vrais personnages, la vraie histoire.
On parle d'un référendum qu'on doit faire. C'est prévu pour quand?
Alors, normalement, c'est de 2014.
Ah, 2014.
Mais bon, ça peut être 2014, 2019. Aujourd'hui, en Nouvelle-Calédonie, quand on a fait le film, on montre à la fin les deux drapeaux. C'est notre ami Bernard Angois qui nous fait les commentaires depuis des années et des années. On avait fait ensemble Jean-Marie Tchilaou, Le rêve d'indépendance aussi. Et donc, dans le commentaire de Bernard, quand on conclut le film en montrant les deux drapeaux qui se côtoient côte à côte sur les mairies indépendantistes, c'est plus seulement sur les mairies indépendantistes que les deux drapeaux sont présents, c'est sur tous les édifices publics et sur toutes les mairies du territoire. Et c'est assez impressionnant de voir le drapeau kanaki, le drapeau indépendantiste, par exemple au fronton de la mairie de Nouméa ou du Haut Commissariat. Pendant des années et des années, beaucoup se sont battus pour qu'il y ait la reconnaissance de cette légitimité qui était liée, qui était bafouée. Hein. UVA, le drame d'UVA, c'est le paroxysme de la négation du peuple kanak. Et là, aujourd'hui, quand on se balade en Nouvelle-Calédonie et qu'on passe dans des mairies loyalistes et qu'on voit deux drapeaux, y a une sacrée avancée. Quoi.
Ça représente quelle population, le peuple kanak?
Rock Aucas, du mouvement des jeunes kanak en France.
On va dire 45 maintenant, 45% de la population.
En nombre, j'aimerais...
C'est à peu près 100 000 habitants. 100 000, un peu moins de 100 000 sur 250 000 habitants.
C'est moins de 100 000, hommes, femmes et enfants. Hein, c'est 94 000, quoi. Voilà. Hein. Donc c'est un tout petit peuple, quoi. Hein.
Oui.
Moi, je suis Argenteuil. La ville d'Argenteuil, c'est toute la population d'Argenteuil est plus importante que toute la population kanak. C'est un tout petit...
C'est pour ça que moi, je ne serais pas très confiante qu'on ait proposé le référendum. Je me pose la question s'il faut y croire.
Moi, je pense qu'il faut y croire parce que c'est un droit. Hein,
c'est un droit, ah oui.
Voilà, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes,
60
000 ou 1 million ou 10 millions... c'est un droit, de toute façon.
Mais il est bafoué souvent.
Ben, il est bafoué souvent. Mais dans l'histoire, il est arrivé où des peuples qui réclament leur indépendance l'obtiennent. Quoi. Mais chaque histoire est particulière, chaque histoire est différente. Et chaque cheminement est différent. Le cheminement qui se passe en Nouvelle-Calédonie, un cheminement qui n'existe pas dans l'histoire du colonialisme ou des décolonisations. Aujourd'hui, en Nouvelle-Calédonie, il y a un gouvernement où il y a des indépendantistes et des anti-indépendantistes qui sont dans le gouvernement. Ça ne s'est jamais vu. Voilà. les accords de Matignon puis les accords de Nouméa ont fait que la loi organique impose une gestion arrêtée à la proportionnelle des voix, et donc il y a des ministres anti-indépendantistes et des ministres FNKS, le Parti travailliste, et donc c'est une voie qu'on n'a jamais explorée, quoi. Mais bon, comme la Nouvelle-Calédonie est un pays très riche, moi je dis toujours, ceux qui ont beaucoup d'argent ne lâcheront pas l'affaire. Voilà, ils ne vont pas du jour au lendemain se dire, voilà, on va partager, on va être ensemble, on va construire. Ceux qui ont le pognon, ils ont beaucoup de pognon, ils lâcheront jamais, quoi. Hein, donc c'est le rapport de force, la lutte du peuple canadien qui a amené à ces compromis, quoi. Hein, voilà. Mais
qui a l'argent?
Vous savez, c'est un tout petit pays. Les Barreaux, les Balandes, les Lafleur, les Leroux.
Est-ce que demain un changement politique pourrait avancer le processus au niveau de l'indépendance? Si demain un changement politique, on peut rêver. Hein.
En fait, c'est défini dans la cour de Nouméa en 1998. C'est de prévoir qu'à partir de 2014, on pourra créer les conditions pour qu'il puisse y avoir des référendums.
Ça ne pourra pas être mis en cause. Hein.
Ça ne sera jamais remis en cause. Et ça, on appelait ça la loi organique, donc qui a découlé de l'accord de Nouméa en 1998, est inscrite dans la Constitution française. Donc en fait, ça serait anticonstitutionnel que ça ne se fasse pas.
Que quoi ne se fasse pas? Le référendum?
Non, le référendum, c'est sur la base de la décision du Congrès du territoire. Donc c'est le Congrès, donc au vote des 3/5, qui vont décider de la date de la question qui va être posée. Donc avant 2014, il y a d'abord les élections provinciales. C'est les élections provinciales qui vont donner après donc une naissance aux élus du Congrès, et des élus du Congrès vont donner naissance en fait au gouvernement. Donc ce qui est important pour 2014, c'est qu'il y ait un maximum, pour nous indépendantistes, qu'il y ait un maximum d'élus indépendantistes au niveau du Congrès. Comme ça, ils vont décider de la date du référendum. Nous, on se base sur 2014. Et ça peut être 2014, comme ça peut être 2015, jusqu'en 2019. Et la question qui va être posée n'est pas définie au préalable. Elle sera définie par le Congrès du territoire.
J'ai l'impression qu'il y a un énorme piège à con dans cette histoire de référendum. Donc, de baser ça sur des électeurs. Puisque je crois me rappeler qu'en 1970, un certain Mesmer avait dit « Mon but, c'est de planter du blanc ». Et je crois savoir que dans les années 60, les Kanaks étaient majoritaires. Et d'après ce que vous venez de dire, ils sont plus majoritaires, ils sont moins de 45% de la population. Ce qui veut dire que Mesmer a gagné. Et moi, je trouve ça extrêmement grave. C'est vraiment, il n'y a pas à faire des référendums. On donne l'indépendance, point final. C'est idiot, ces histoires d'élections. Et ce qu'il faut juste savoir, c'est dans quelles conditions on va organiser le rapatriement des Blancs qui sont là-bas. En 1830, on a les Français ont envahi l'Algérie, ça a été décolonisé, les Français sont repartis. Quand est-ce que les Français repartent de Nouvelle-Calédonie? C'est ça seulement la question. Et moi, ce qui m'énerve, c'est de... Nous, on est là à Paris, on est en France, on croit que c'est une histoire qui est à 20 000 km, on ne sait pas trop quoi faire en soutien à cette population colonisée à 20 000 km d'ici, mais ce n'est pas du tout vrai qu'on est en dehors du coup, puisque les assassins et les criminels, ils habitent ici, à côté de chez nous, maintenant. Alors, Mesmer, ben c'est trop tard, je crois savoir qu'il est mort, mais il y en a un qui n'est pas encore mort, il s'appelle Bernard Ponce. Bernard Ponce, il habite, je crois, pas très loin de Toulouse, et je trouve que c'est insensé, ça serait absolument ignoble que cet homme meurt de sa belle mort. Moi, j'estime que je représente la France résistante, et le devoir de la France résistante, c'est que les criminels soient punis.
Jugez, s'il vous plaît, jugez.
Alors, vous pouvez être légaliste, ça vous regarde, mais j'estime que ce monsieur, c'est anormal qu'il ait une vie tranquille actuellement, tous les jours.
Et je trouve que le film de Kassovitz montrait bien l'horrible personnage, moi je m'en souvenais, même si j'étais un peu plus jeune.
C'est qu'à la suite des événements de Nouméa, je crois que c'est un an ou deux ans après, il y a eu les lois d'amnistie. Donc en fait, on ne peut plus, même si on connaissait l'histoire, on ne peut plus refaire un jugement sur ce qui s'est passé là-bas. La deuxième chose, c'est au sujet de l'immigration, c'est-à-dire de l'immigration française du territoire localement. Ça s'est passé depuis l'époque de la colonisation. Alors il y a eu une première vague coloniale, il y a d'abord une première vague d'arrivée des non-Kanaks sur le pays. C'était les bagnards. Donc, c'était à être déportés de la commune, du droit commun aussi. Ils se sont après installés là-bas. Et après, il y a eu la colonisation de peuplement, qui a commencé au début. Et après, il y a eu la génération Mesmer. Il y a eu Naville-les-Roches, 83, donc, où les indépendantistes, les leaders indépendantistes de l'époque, ont reconnu les victimes de l'histoire. Je pense qu'il y a eu cette volonté de vouloir construire ensemble. Après, ce qui a suivi au niveau des événements, c'est que, en tout cas, l'État français a jamais réglé la question de l'immigration des Français sur les territoires. C'est une des raisons qui a fait qu'on a refusé un statut. Je ne sais plus si c'est le statut Pons ou le statut Pisani juste avant. Et il y avait eu, à la signature de l'accord de Nouméa, une garantie, mais ce n'est pas une garantie écrite, du gel du corps électoral. Cette garantie-là, il a été faite en 2007, je crois, début d'année 2007, ça a été voté à Versailles, comme quoi on allait geler le corps électoral. Donc ça veut dire que ceux qui sont arrivés donc après 1998 ne pourront pas voter, donc ni aux élections provinciales, ni au référendum. Et en fait, le gel du corps électoral, il est attaché en fait à l'accord de Nouméa. Et après, la question, c'est pour ça qu'on se dit que la question qui va être posée et qui précipite le référendum, si le référendum a lieu et si on perd, eh ben le gel du corps électoral tombe en même temps. Donc ceux qui seront arrivés là-bas, si on invente un autre accord ou je ne sais pas quoi, tous ceux qui seront arrivés jusqu'à là pourront, et là on sera vraiment ultra minoritaire.
Pour la population kanak dans son ensemble, comment elle voit un petit peu la suite de la lutte justement par rapport à soit une indépendance, soit une reprise de gestion réelle du pays? Et est-ce qu'il y a parmi les kanaks beaucoup de gens, par exemple, qui sont contre cette indépendance? Est-ce qu'il y a... quelle est un petit peu, la vision des gens là-bas, de manière générale?
C'est vrai que, au niveau de l'école, par exemple, il y a maintenant des programmes scolaires qui intègrent, depuis 2-3 ans, l'histoire du pays, y compris l'histoire des événements, etc. Il y a une prise de connaissance, au contraire de notre génération, où on restait encore avec nos ancêtres, les Gaulois, etc., qui fait qu'on n'apprenait pas forcément notre propre histoire. Donc il y a à la fois la prise de connaissance de l'histoire, il y a l'ouverture aussi en même temps. Donc ils vivent beaucoup plus facilement avec les autres communautés, je parle de Nouméa par exemple. Mais il y a une réalité, et la réalité que rencontrent les jeunes Kanaks, c'est la réalité sociale, c'est-à-dire l'échec scolaire, la difficulté à trouver du travail. Même y compris des étudiants qui retournent après d'avoir fait des études en France, ils ne trouvent pas facilement du travail. Donc ça, c'est des difficultés, des réalités locales qui existent encore et qui continuent quelque part à perdurer et qui, dans la tête des jeunes, ça reste... Donc la conscientisation, elle ne vient pas d'une idée politique, mais d'une réalité sociale. Donc ils restent avant tout des militants de par leurs conditions de vie.
Est-ce qu'il y a eu une projection démographique faite à partir du taux de fécondité de ceux qui sont plutôt pour l'indépendance et ceux qui sont plutôt contre l'indépendance?
Dans tous les scrutins de ces 20 dernières années, plus de 85% des Kanaks votent indépendantistes. Et du point de vue de la fécondité en Nouvelle-Calédonie, les Kanaks procréent plus que les Européens. Il n'y a pas que les Européens en Nouvelle-Calédonie, il y a aussi les Océaniens, il y a les Wallisiens, les Futiniens, les descendants de Vietnamiens, les descendants d'Algériens déportés, transportés en 1871 avec les communards. Il n'y a pas les Kanaks et les Européens, il y a d'autres communautés qui ont leur place en Nouvelle-Calédonie. Et quand monsieur dit il faut organiser leur rapatriement en Europe, non. Il y a des gens qui sont ici depuis plusieurs générations, qu'on appelle les Calédoniens ou les Caldoches, et ils ont leur place là-bas. C'est ce qu'on appelle les victimes de l'histoire. Des gens qui sont nés, qui sont nés là-bas, n'ont pas à se reprocher d'avoir eu un grand-père déporté, transporté. Et donc ce pays va se construire pas qu'avec les Kanaks, il va se construire aussi avec ce qu'on appelle les victimes de l'histoire, les descendants d'Algériens, les descendants de Vietnamiens, etc. Et c'est ça qui est intéressant. C'est pas une situation algérienne. Situation algérienne, les pieds noirs en Algérie auraient pu rester s'il n'y avait pas eu ce flot de sang. Énormément de gens avaient la légitimité pour rester en Algérie. Mais ce qui a fait l'exode de juillet-août 62, c'est ce flot de sang qu'il y a eu avec l'OAS et qui a rendu, pas impossible la cohabitation, mais l'impossibilité de rester. Il n'y aurait pas eu toutes ces violences, les pieds noirs auraient été légitimes pour rester en Algérie parce qu'ils y étaient depuis plusieurs générations. Ensuite, on va parler des problèmes économiques, c'est-à-dire que on ne peut pas rester avec le même statut. C'est-à-dire que quand on possède les mines, les comptoirs, tout le commerce et autres, il faut être dans le partage et il faut être dans la répartition des richesses. Parce que sociologiquement, oui, ce sont les Européens qui ont toutes les richesses et les autres, les Kanaks et les Océaniens qui triment, quoi. Et il va falloir que ça change, hein, dans le pays futur, quoi. Et quant à Bernard Ponce, c'est ces gens-là, Ponce, Vidal et compagnie, qui se prennent pour des justiciers et qui, au nom du peuple français, vont assassiner les gens. C'est ces gens-là, l'inhumanité. Nous, nous sommes des humanistes. Nous sommes pour la justice. On n'appelle pas au meurtre parce que c'est eux, les barbares. C'est pas nous. Nous, quand Ponce passe à la télévision, payé par vos impôts, avec sa légion d'honneur et autres, c'est la honte, ces gens-là. Mais il faut les regarder dans les yeux, il faut les interpeller. Mais la violence par rapport à ces tristes personnages n'a jamais été... voilà, faut pas en faire des martyrs de ces gens-là. Hein. L'année dernière, on a passé l'histoire du 17 octobre, c'est là où on s'est rencontrés, Taline. Papon, c'est pareil, il y en a qui ont dit pendant des années, on va lui faire la peau, mais faut pas que ça soit des... C'est eux les barbares, c'est pas nous, quoi. Nous, notre combat, c'est les films, c'est la parole, c'est ces rencontres. Eux, c'est l'inhumanité, nous, c'est l'humanité. Voilà la différence. Et ils sont déjà dans les poubelles de l'histoire.
Je voulais juste rajouter que lors du débat Kassovitz-Ponce, Kassovitz a demandé que Vidal et Ponce doivent être jugés en France. Hein. Je pense qu'il faut se greffer là-dessus pour soit constituer une association et déposer plainte, soit trouver un moyen pour les actionner un procès, quoi.
Je voulais dire simplement que j'avais été impressionnée par le calme, la douceur de ce peuple. Et vraiment, je suis très impressionnée.
Il faut pacifier parce qu'il est très méchant. Et les amis là-derrière, ils sont très méchants. Oui, par rapport à la... C'est ça l'humanité. Par rapport à la justice, hein, on a fait référence à la guerre d'Algérie. Pour la guerre d'Algérie, il y a eu 6 lois d'amnistie. C'est-à-dire que les États coloniaux ou les puissances coloniales, ils organisent les banquiers qui piquent de l'argent et qui sont poursuivis, ils organisent leur insolvabilité. Mais les puissances coloniales, ils organisent le fait de ne pas pouvoir être poursuivis. Et les lois d'amnistie, ça sert à ça. Ça sert à faire que, malgré les témoignages, malgré les faits, malgré les enquêtes des journalistes, les gens ne sont pas poursuivis. Et dans le film qu'on avait fait avec Bernard Langlois sur Tchibaou, le rêve d'indépendance, on avait très très longtemps parlé avec Rocard. Hein. Et Rocard, il le dit, l'amnistie, c'était pas seulement pour les Kanaks, c'était pour les gendarmes qui s'étaient rendus coupables d'exactions, d'assassinats, hein, pour être clair. Parce que ils préfèrent une loi d'amnistie libérant 70 prisonniers, ils étaient. Hein. Ici, il y a Françoise qui s'est occupée du collectif des prisonniers avec le papa de Dojima, avec Jimmy Wunay. Dojima est ici aussi avec sa maman. C'était pas 50 prisonniers, c'était 70 personnes qu'il fallait sortir, qui sont des pères de famille, qui sont des agriculteurs, qui sont des pêcheurs, etc. Donc, oui, il fallait signer pour que ces gens-là sortent, mais les gendarmes qui ont assassiné des gens, qui ont exécuté des gens, eh ben, ils ont été aussi amnistiés. Alors, bon, c'est vrai, il peut y avoir des commissions, des ceci, de cela, mais les lois d'amnistie dans nos puissances coloniales, c'est fait pour passer la page, quoi. Voilà. Et c'est vrai que la justice est malmenée, parce que nous, on a un sentiment de dire, mais c'est pas normal. Et les gens à OVA, ils disent, nous, on aurait voulu qu'il y ait des mots, même si les gens ne sont pas condamnés, mais qu'on puisse nommer les choses. Et vous savez, quand il y a eu ce film... Un retour sauvé. En même temps, il y a eu un autre film, Autopsie d'un massacre d'Elisabeth Drévillon. Ils sont passés à la date anniversaire, donc en 2008. On s'est fait pourrir par les caldoches, par les fachos en Nouvelle-Calédonie, par les députés, par Lafleur, par Frogier, en disant « Oui, mais vous rendez compte, il faut pas parler de ces événements-là, faut tourner la page ». Vous allez réouvrir les plaies. Mais les plaies, elles n'ont jamais été... Ces mêmes gens-là qui insultaient Jean-Marie Tjibaou, qui traitaient avec un acte de terroriste, qui appelaient au sang et à la vengeance, ces mêmes gens-là, 20 ans plus tard, ils viennent nous dire « Non, non, faut pas parler de l'histoire. Les choses sont apaisées, n'écrivons pas l'histoire. » Notre justice, c'est les mots, c'est les images, c'est les témoignages. Voilà. Et c'est important. C'est ça, notre justice. Parce que s'il fallait attendre que les lois d'amnistie soient déverrouillées pour qu'on puisse dire... les choses.
C'est 2012, c'est le début de l'année, on peut rêver, quoi.
Vous avez dit, il y a plusieurs communautés. Des communautés qui sont, par exemple, d'Algérie ou d'ailleurs, européennes, etc. Est-ce que les communautés hors communauté européenne, est-ce que sont plus nombreuses et est-ce que ça fait une population beaucoup plus nombreuse avec les Kanaks, avec les originaires du pays? Et est-ce que ces autres communautés sont avec les Kanaks et pour l'indépendance?
Non, pour finir sur les statistiques, il y a dans les Kanaks à peu près 45-46, il y en a 35 un peu pour les Européens, à peu près 15% des Océaniens. Et après, on parle des... Enfin, Océaniens, on parle en général de la Polynésie, tout ça. Et après, on descend à 1% déjà pour les autres communautés du Pacifique. Alors pour la partie le peu qui sont, je veux dire les descendants d'Algérie, tout ça, le peu qui sont, ils ont pas mal aidé, on va dire, au début des années 80. Et même un petit peu maintenant aussi, on va dire, qui partagent beaucoup la lutte du peuple kanak. Et par rapport aux autres communautés polynésiennes, je dirais qu'il y a à peu près un tiers qui défendent un peu la lutte du peuple kanak et peut-être une autre tiers contre. Et peut-être l'autre tiers, un peu, on ne sait pas quoi. Mais il y a quand même une bonne partie des communautés non-kanaks qui sont pour.
Je ne sais pas si on a bien saisi le sous-entendu de la question là, au sujet de la démographie. Je n'avais pas parlé des kanaks, j'avais parlé des indépendantistes et des anti-indépendantistes. C'est pour savoir si, à partir d'une date plus ou moins précise en année, il était possible de faire ce référendum à cette date-là plutôt qu'en 2014. Si, par exemple, en 2025, c'est sûr que les indépendantistes seraient majoritaires électoralement, alors pourquoi le faire en 2014 si on est sûr de perdre? Alors autant attendre 2025 ou 2029 pour assurer encore plus, vu la démographie, ou pas? C'est ça le fond de la question qui était inclus, quoi.
Alors en fait, quand on a signé les accords Matignon, je crois que c'était, je ne sais pas si c'était Rocard qui disait ça, c'est qu'ils avaient fait une étude démographique de l'époque. Et il disait que d'ici 10 ans, avec le taux de natalité, etc., de l'époque, on allait devenir majoritaire. Mais ça, c'est une étude basée simplement sur la démographie, mais sans tenir compte des flux migratoires, de l'arrivée des multinationales, etc. Donc on s'est retrouvé au bout de 10 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Une grande division des mouvances indépendantistes, l'arrivée des multinationales, une grande arrivée de population française. Donc au bout de 10 ans, on n'est pas du tout dans les chiffres des statistiques de 98. Et même maintenant, beaucoup de Kanaks, je veux dire, si on peut parler des Océaniens, maintenant il y a un changement de mode de vie. Donc on passe d'une culture, d'une vie un peu rurale à une vie un peu industrialisée, tout ça. Donc du coup, on fait d'année en année, on fait de moins en moins d'enfants. Alors moi, de mon côté, on était 11 enfants, maintenant, j'en ai plus que 2, voilà. Donc en fait, au fur et à mesure qu'on avance dans la vie modernité, quoi. Donc on fait, je pense que c'est le cas en France. Donc tout ça, je ne sais pas si ça a été pris en compte dans leur étude statistique. On ne peut pas baser notre avenir simplement sur des études statistiques. Il y a plein d'autres facteurs qui viennent influer sur la vie d'un pays, quoi.
Moi, il me semble que plus le référendum aura lieu tard, j'ai l'impression que le gouvernement est en train de manipuler pour que ça se passe plutôt en 2014 qu'en 2018 qu'en 2014. Je crois que le gouvernement calcule qu'il a besoin encore de quelques années pour encore un petit peu plus ethnocider l'élite kanak. C'est-à-dire habituer l'élite kanak au soi-disant, la soi-disant fatalité de la mondialisation, à la nécessité de la modernisation de la vie. Donc former de plus en plus de kanak à devenir eux-mêmes PDG dans des mines de nickel et petit à petit faire comprendre à une élite qui a été ethnocidé, occidentalisé, que la seule façon réaliste d'être dans l'économie sérieuse, c'est de ne pas demander l'indépendance. J'ai l'impression qu'il y a tout ce calcul, tout ce stratagème, Et moi, j'ai extrêmement peur de ce référendum, parce que je vois depuis des années tout le travail énorme via la scolarisation, via tous ces canaques à qui on fait faire des stages, qu'on envoie dans des formations universitaires style Paris Dauphine à Paris, pour leur faire croire que l'idéal, c'est une canaquie moderne, complètement dans la mondialisation, et que c'est complètement idiot d'être dans une fierté culturelle, dans un retour au passé, dans des valeurs d'autarcie, de vivre en rural. Et moi, personnellement, je suis très, très inquiet de toute cette énorme manipulation ethnocidaire qui est en train de se passer.
En ayant d'autres mots, je pensais, est-ce que c'est pas un peu le phénomène Mayotte qui peut arriver ? C'est-à-dire que la crise, tout cet ensemble qui fait qu'on met la chape pour être bien gentil et tout, et un peu Mayotte, c'est-à-dire un référendum qui dira subvention, aide, vive la France, la sécurité sociale.
Mais le risque de mayotisation de ce qui va se passer localement, de Mayotte, de ce qui se passe à Mayotte chez nous, c'est la séparation de Mayotte par rapport aux Comores. Pourquoi ? Parce que la France a décidé de faire un référendum par île. Et chez nous, il risque d'y avoir ça si, au niveau des congrès, ils décident de faire un référendum par province. Donc il peut risquer une scission du pays. Maintenant, je vais revenir sur la partie formation des jeunes cadres kanak. C'est ce que Jean-Marie parlait à l'époque du pari de l'intelligence. C'est que il faut former des hommes, quoi. Avec l'opération qu'on appelait à l'époque l'opération 404, ça se prolonge avec l'accord de Nouméa, avec l'opération cadre avenir, c'est de former des cadres kanak. C'est vrai que nous, on ne mange pas le nickel chez nous, on mange plutôt les ignames, donc il va bien falloir traiter ce nickel-là avec des compétences qui viennent d'ailleurs. Mais moi, je vais intervenir sur la partie formation des hommes. C'est sûr que d'aller se former en France, de rester des années en France, peut-être manger des camemberts et tout ça, ça peut peut-être arriver un moment qu'on va oublier le pays, mais je pense que la grande majorité des Kanaks, de par l'éducation, de par, je pense, une forte identité, je pense qu'il n'y a pas... en tout cas, ça arrive très peu, quoi. Donc, voilà, pour répondre à ça. Mais quand même, c'est un pari de l'intelligence, on en est tous conscients, et on est obligé d'y passer, quoi.
C'est-à-dire, c'est travailler dans une mine de nickel, par exemple, travailler à la mine, et plus avoir le temps d'avoir son champ, et être obligé d'avoir les poulets du Brésil, comme on fait à Mont-Ravel ou n'importe où, quoi. Et c'est ça, l'occidentalisation, un petit peu... je pense qu'il est beaucoup plus sournoise que le fait d'envoyer des cadres ou machin, quoi. J'ai l'impression qu'on a beaucoup plus de gestionnaires aujourd'hui que de visionnaires, vraiment, quoi. Enfin, le dernier a été sabré. Enfin, voilà, il est mort, quoi. J'ai pas vu un mec, j'ai pas vu un seul qui est sorti vraiment visionnaire, quoi. Voilà, tu vas où ? Il y en a d'autres, il y en a plein d'autres. Mais quelqu'un qui a le charisme, qui a la vision, quoi, de quelque chose... Oui, il y en a eu d'autres. Machoro aussi, oui, non, bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, le dernier a été. J'en vois pas. Je vois des gestionnaires partout. Je vois des bons gestionnaires, mais c'est vrai que je vois aucun bon visionnaire, quoi. C'est-à-dire quelqu'un qui dirait effectivement, à un moment, nous, on décide effectivement de pas être dans, dans cette course constante à former des gens pour être effectivement. Mais de toute manière, on aura beau former qui on veut, on sera jamais l'égal des Russes, des Chinois. De toute manière, j'ai l'impression qu'on est voué effectivement à être bouffé, quoi, comme ça. Et qu'il y a une vraie, je veux dire le tiers-mondisme, la troisième voie. C'est vrai que ça a toujours été un rêve. Enfin, je sais pas si ça existera un jour, mais il y a toujours peut-être un espoir que nous, nos peuples, les gens comme nous, on insuffle peut-être quelque chose d'autre, quoi, que le fait de se former à gérer des mines de nickel. Enfin, il y a rien de plus moche que de saigner une montagne, quoi. Enfin, je sais pas. Effectivement, ça va nous permettre d'acheter des iPods, ou je sais pas. Mais je sais pas si c'est vraiment le bon... Tu vois, c'est ça qu'il dit, en fait, je pense. Et je pense qu'on perd pas ça parce qu'on garde la coutume, mais plus on se... L'occidentalisation, elle est là, mine de rien. Et c'est pas le fait de... C'est pas l'échange culturel, genre, je mange du camembert. Tu vois ce que je veux dire ? Je mange du camembert et j'échange, et toi, tu vas manger une igname. Ça, c'est sain. Enfin, ça a toujours été... Ça a toujours été là, quoi. Et j'ai l'impression que c'est plus fin, quoi. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer, quoi.
Je suis métissée kanak. Simplement, j'aimerais réagir donc à ce qui est en train de se dire, là. C'est que, oui, l'occidentalisation et tout ça, mais franchement, on ne peut pas passer à côté. Nous, tout ce qu'on peut faire au mieux, c'est préserver la culture qu'on a déjà et essayer de se créer un nouveau système où l'occidentalisation, tout ça, on pourrait combiner les deux choses, quoi. C'est le mieux qu'on puisse faire. Et bon, après, j'entends critiquer d'envoyer des cadres kanak et tout ça en France et tout ça. Bon, ça, c'est pas toi, c'est le monsieur, là. Non, c'est juste pour dire, c'est ça, on en a besoin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des kanaks déjà en Nouvelle-Calédonie et on a besoin de se protéger du monde. Parce que peut-être bien qu'on pourra avoir l'indépendance et tout ça, après retourner le travail au champ, tout ça, retourner à une vie très simple. Mais ça ne se fera pas. Hein. Ça n'existe pas. Ça, on est obligé de vivre dans la mondialisation. On est obligé de vivre avec les grandes sociétés, les grandes industries. Et si jamais, quand on aura l'indépendance, quand la France sera plus là, parce que je pense que c'est un parallèle en ce moment, on est en même temps, on est protégé par la France. Quand la France sera plus là, on se fera bouffer par les autres, par les multinationales à pognon, par les dictateurs des pays asiatiques et tout ça. Enfin voilà, tout ça. Enfin, c'est un point de vue, c'est une vision. Donc on peut pas passer à côté de ça. On est obligé d'aller en France et de se former.
Il se trouve que j'étais à Ouvéa pour le 20e anniversaire du massacre et que j'ai assisté à la fois aux cérémonies officielles et en même temps que j'étais à Gostana où j'ai assisté aux cérémonies strictement organisées par les Kanaks, les indépendantistes. Je pense qu'effectivement, ce que disait un ami Kanak là à l'instant est vrai, il y a des pièges de l'occidentalisation et notamment dans les accords de Matignon, qui sont les accords qui ont été signés entre Lafleur et Tshibaou en 1988 à l'hôtel Matignon, sous l'égide de Michel Rocard, il y a un piège diabolique, c'est qu'on a donné aux Kanaks ce que nous subissons, nous, en France, c'est-à-dire cette coupure entre les élus et les simples citoyens, cette coupure qu'on voit partout dans le système représentatif. En ce sens que, avec le découpage de la Nouvelle-Calédonie en quatre provinces, il y a une province qui a été tout de suite entre les mains des Caldoches, c'est la plus riche, celle de Nouméa, bon, celle du sud, mais les trois autres se sont retrouvés entre les mains des Kanaks, indépendantistes, et là, cette coupure, je pense, moi j'ai cru l'apercevoir en 88 à Gossana, parce que grands notables Kanaks ne s'étaient pas dérangés, ils avaient envoyé des seconds ou troisièmes couteaux. Voilà, et la population, certains dans la population quand même en étaient conscients et voilà, et le supportaient plus ou moins bien. Alors je pense que effectivement il y a une espèce d'occidentalisation rampante qui pose problème chez eux, bien sûr, comme ça pose problème chez nous. Alors il y a un autre point, c'est que je pense qu'effectivement il faudrait sans doute faire en Nouvelle-Calédonie quelque chose de comparable à ce qu'on a fait en Afrique du Sud, ce que Desmond Tutu, l'archevêque anglican Desmond Tutu, qui avait été un grand combattant de la lutte anti-apartheid, a fait, c'est-à-dire des commissions vérité et réconciliation, où même si, à cause de lois d'amnistie, on ne peut plus poursuivre pénalement les gens de stricte manière, au moins on essaie de dire la vérité. Et ça, je l'ai ressenti très fortement en 88 à Gossana, que je crois que c'est un très grand besoin, d'ailleurs c'est parfaitement rendu dans le film, n'est-ce pas, le besoin que il y a une parole qui soit échangée, une parole de vérité sur ce qui a été commis, et notamment sur les crimes qui ont été commis par l'armée française. Non pas par les gendarmes, c'est pas les gendarmes, mais ce sont des soldats, ce sont des militaires en dehors de la gendarmerie qui ont commis ces crimes. Et effectivement, la responsabilité incombe à ceux qui étaient au gouvernement à l'époque. Alors, il y a un dernier point sur lequel je voudrais conclure. Dans ce que Giraud, qui était le ministre des armées, dans cette note confidentielle qu'il envoie à Ponce, il dit « Le président de la République et le Premier ministre ont donné leur accord au déclenchement de l'opération Victor ». Ça veut dire que Mitterrand, l'immense socialiste, n'est-ce pas, Mitterrand, le merveilleux homme de gauche, très hostile à la peine de mort, comme chacun sait, n'est-ce pas, eh bien, il a la main dans la main avec Chirac, on sait qui est Chirac, voilà, la main dans la main avec Chirac, ils ont condamné à mort, n'est-ce pas, ces gens, alors que, comme le dit admirablement Le Gorju, qui est l'officier de gendarmerie Le Gorju, et qui lui, je pense, était un homme, alors vraiment un homme digne de ce nom, et il aurait suffi de quelques jours de négociations supplémentaires, mais Mitterrand n'a pas voulu mettre en péril sa réélection.
Une question qui n'est pas posée habituellement, là je le pose à tous les deux.
Je suppose que ça tourne beaucoup dans des projections militantes et qu'à chaque fois il y a un débat. Quelles sont, donc à chacun, quelles sont les questions que vous aimeriez qu'on vous pose, donc une, chacun, et qu'on n'a pas posées. Et apporte-leur une réponse, évidemment.
Comment vous pouvez nous aider, quoi?
Non, là, moi, j'ai une réponse un petit peu bizarre, mais un film, c'est pas un objet culturel seulement. Un film, c'est un objet de mobilisation. Et moi, la question que j'aimerais qu'on me pose, c'est quand est-ce qu'on se retrouve pour d'autres films, pour d'autres débats, pour d'autres mobilisations. Voilà. Ces films sont faits pour être montrés, mais bon, moi, je suis un réalisateur comme vous, je suis pas un commerçant, donc pirater mon film, j'en serais très heureux. Je ne vous enverrai pas Bernard Ponce.